Sœurs, de lire avec moi dans l'Écriture, dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4, et nous allons lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Merci Seigneur, parce que il y a en effet dans ta parole une source de consolation et de bénédiction permanente. Et nous te prions que, au travers de ces moments de méditation de ta parole, tu puisses encore nous renouveler dans cette espérance glorieuse que possède chacun de tes enfants. Seigneur, bénis ces instants, s'il te plaît. Ouvre nos cœurs et donne-nous de pouvoir toujours plus nous réjouir en toi, parce que en toi, nous avons tout trouvé. Je te loue, Seigneur, pour ton amour immense, pour la grâce que tu as étendue sur nos vies, pour l'espérance qui est notre partage, et parce que nous savons tous qu'un jour nos yeux te verront. À toi la gloire, Seigneur, dès à présent et pour l'éternité. Gloire à Dieu. Voilà le titre que je voudrais donner à la méditation de ce matin, est très simple. C'est celui-ci. Qu'arrive-t-il aux chrétiens qui sont morts? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Et puis en même temps, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de personnes qui s'attachent à des choses qui n'ont pas beaucoup d'importance. Ils sont dans la spéculation en ce qui concerne le retour du Seigneur, en ce qui concerne aussi la fin des temps. Et il arrive parfois même que certains sont, je dirais, atteints par une passion dévorante pour l'étude de la fin des temps. Mais certains même ont des interprétations quelque peu douteuses concernant les prophéties à ce sujet, et ils prétendent connaître le secret que même le Seigneur Jésus, pendant le temps de son incarnation, je ne dis pas aujourd'hui, mais pendant le temps de son incarnation, ne connaissait pas. Puisque nous tous qui connaissons ce que dit l'Écriture et notamment ce qui constitue les paroles du Seigneur dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 24, verset 36, il est dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni même le Fils, mais le Père seul. » Donc, quand nous rencontrons des personnes qui ont une soi-disant révélation de l'heure, du jour, de l'année, à laquelle le Seigneur va paraître, eh bien, nous pouvons toujours le rappeler ce que Jésus a dit dans sa parole. Mais pourquoi est-il quand même intéressant de repenser à ce retour merveilleux qui est annoncé par la parole de Dieu concernant le Seigneur Jésus? C'est une espérance que tous les chrétiens possèdent, et je dois dire que dès le premier temps de l'ère chrétienne, eh bien, tous ceux qui avaient placé leur confiance dans le Seigneur étaient dans l'attente de sa venue. Mais l'attente de sa venue, je voudrais me répéter ici, ne doit pas faire seulement l'objet de spéculations, de recherches particulières pour alimenter notre intellect et puis aussi faire croire aux autres que nous connaissons beaucoup de choses à ce sujet-là. Mais chaque fois que la Bible en parle, c'est pour nous encourager les uns et les autres à être toujours plus fidèles à Dieu, obéissant à ce qu'il nous dit au travers de sa parole, afin que ce jour, le grand jour où il va paraître pour prendre avec lui tous les croyants, eh bien nous ne soyons pas pris au dépourvu, mais que nous soyons trouvés prêts. Et ici, l'apôtre Paul, dans cette première épître qu'il adresse aux Thessaloniciens, veut consoler ces chrétiens. Parce que nous devons savoir une chose. Nous connaissons, d'après les écrits contenus dans le livre des Actes des Apôtres, que Paul est à l'origine de leur conversion. Il y a eu à Thessalonique une sorte d'action puissante de l'Esprit de Dieu qui a attiré beaucoup de personnes à Jésus-Christ. Mais en même temps, il y a eu une grande tribulation, il y a eu de grandes épreuves. L'apôtre Paul a dû d'ailleurs quitter précipitamment la ville de Thessalonique, abandonnant un peu ses chrétiens. Je mets ceci entre guillemets, parce que dans le fond, il les a remis entre les mains du Seigneur et d'autres serviteurs de Dieu sont venus pour continuer le travail par la suite. Mais ce qu'il sait, Paul, c'est que ces chrétiens de Thessalonique, à l'heure où il leur envoie cette première épître, sont tout à fait jeunes dans la foi. Il n'y avait que quelques années qu'ils connaissaient le Seigneur. Ils n'étaient pas ignorants de certaines choses. Et d'ailleurs, dans cette épître, il est rappelé que ces chrétiens-là avaient la connaissance au sujet du retour du Seigneur. Ils avaient certaines connaissances également de la manière de se comporter ici-bas sur la terre, dans une marche sainte, dans l'obéissance à Christ. Et leur foi était d'ailleurs réputée dans toute l'Achaïe. Les chrétiens de Thessalonique, bien que jeunes dans la foi, était tellement consacré à Dieu qu'à un moment donné même, Paul fait l'éloge de ces chrétiens-là et par comparaison à ce que nous savons par rapport aux chrétiens de l'église de Corinthe, nous pouvons dire que c'était des gens qui aimaient le Seigneur par-dessus tout. Mais comme ils avaient entendu parler du retour du Seigneur, il y avait quelque chose qui les tracassait, quelque chose qui les inquiétait. Et c'est à cela que l'apôtre Paul va essayer de répondre. Parce que il savait que Jésus allait bientôt venir. C'est drôle, jamais nous n'avons été aussi près du retour du Seigneur qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Et c'est étonnant que dans ce premier temps de l'ère chrétienne, eux étaient dans l'attente, mais ce qui les préoccupait, c'est d'apprendre que beaucoup parmi eux étaient déjà morts et ils se posaient des questions à leur sujet. Ils se demandaient, mais est-ce que justement ils vont attendre comme ça longtemps Est-ce qu'ils devront échapper ces morts, ceux qui nous ont devancés, ceux qui sont partis? Est-ce qu'ils resteront comme cela en ratant le jour de l'enlèvement, puisque nous, nous sommes là? Mais pourquoi sont-ils morts? D'ailleurs, à un moment donné, c'est justement à l'épître qu'il adresse aux Corinthiens, que Paul dit que certains sont morts à cause de leur péché, de leur désobéissance. Alors, eux sont dans l'inquiétude et ils se posent des questions au sujet de ceux qui sont morts. Et le terme utilisé est celui-ci: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Et je voudrais m'arrêter un instant sur cette expression-là, parce que le terme qui est utilisé et qui est remplacé par « dorme » est un terme qui est toujours en rapport avec le corps, mais jamais avec l'âme. C'est vrai que plusieurs fois, cette expression est utilisée dans l'Écriture. Par exemple, nous voyons qu'à un moment donné, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 28 et au verset 13, il est dit que les sacrificateurs qui étaient là après la mort de Jésus sont allés trouver les soldats qui devaient veiller sur le tombeau. Et comme déjà la nouvelle se répandait partout que Christ était ressuscité, alors ces sacrificateurs se sont approchés des soldats et ils ont dit « Vous direz simplement », parce qu'ils ne voulaient pas que l'on sache que Jésus était ressuscité. Alors ils ont dit « Vous direz simplement que les disciples sont venus enlever son corps pendant que vous dormiez. » Vous voyez, c'est un rapport avec simplement le corps. Par exemple, il est dit aussi dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 12 et au verset 6, que Pierre dormait entre deux soldats alors qu'il était emprisonné. Et il n'est pas question de mort de Pierre, il était bien vivant, il dormait simplement. C'est le même mot que l'on utilise pour ceux qui, dans le corps, où le corps est descendu dans le sépulcre, mais au niveau du corps, ils dorment. Je vous dirai pourquoi je précise cela dans un instant. Un peu plus loin, dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, Jésus va se déplacer quand on l'appelle parce que son ami Lazare est mort. Et lui, il va répondre à ses disciples, « Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. » Alors là, il est évident qu'il s'agit du corps qui dort et il va le réveiller, il va le ressusciter. Même dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 7 et au verset 60, il est dit que Étienne, qui subissait la lapidation, s'est écroulé. Et puis finalement, il a remis son esprit entre les mains du Seigneur. Et il est dit, après avoir fait cela, Étienne s'endormit. Donc, il y a le corps, mais jamais dans l'Écriture. C'est ça que je voulais souligner particulièrement. Jamais dans l'Écriture. Vous trouvez le sommeil de l'âme, que l'âme dort. Non, jamais. Ceci pourquoi? Parce que certaines personnes, et même à l'heure actuelle, on trouve de tels individus, disent que quand on est mort, eh bien, on est dans un état inconscient. Et ils disent, on attend le moment de la résurrection, les personnes sont là dans un état inconscient et attendent simplement le moment de la résurrection. Comme si pendant un temps, n'est-ce pas, il y avait plus de possibilités pour l'âme de continuer ce que la Bible appelle la vie éternelle. Et ça, c'est une absurdité. Et nous nous rendons compte parce que la parole de Dieu donne des précisions par ailleurs, que lorsque nous sommes morts, décédés, notre corps dort, mais notre âme, elle, elle est consciente dans la présence du Seigneur. Pourquoi cela? Parce que, justement, à plusieurs reprises, du moins deux reprises au moins, l'apôtre Paul dit d'abord aux Corinthiens, « Vous savez, pour moi, il m'est préférable de quitter ce corps et de demeurer auprès du Seigneur. » Et quand il écrit aux Philippiens, il dit, « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. » Frères et sœurs, comment pourrait-il l'apôtre Paul dire ce qui est de beaucoup le meilleur si, par exemple, son état était un état d'inconscience jusqu'au jour de la résurrection? Cela voudrait dire que l'état actuel, pourtant, où nous pouvons prendre les uns et les autres conscience de la présence de Christ par son esprit, serait supérieur quand même à cet état d'inconscience. Par ailleurs, la parole de Dieu, eh bien, nous révèle d'autres points. Comme par exemple, lorsque Jésus était sur la croix et que le brigand repentant s'adresse à Jésus et lui dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Quelle a été la réponse du Seigneur? Il faudra attendre le jour de la grande résurrection. Et il lui dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Ça voulait dire donc que même si au niveau du corps, le brigand allait s'endormir, son âme, elle, serait consciente dans la présence de Christ dans le paradis. Et nous connaissons aussi d'autres passages de l'Écriture où nous voyons des personnages qui étaient morts depuis bien longtemps. Souvenez-vous de cette scène qui s'est déroulée sur le mont de la Transfiguration. D'un seul coup, Jésus, devant les yeux, je dirais, éblouis de ses disciples, en tous les cas de trois de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, a été transfiguré, transformé, de telle sorte que, alors que les disciples ne le connaissaient jusque-là que comme un simple homme, d'un seul coup il apparaît dans une gloire magnifique et il voit même que ses vêtements sont devenus éblouissants. Et en observant le Seigneur, ils s'aperçoivent d'un seul coup qu'à côté de Jésus se trouvent deux personnes, lesquelles? Moïse d'une part et Élie d'autre part. Ils étaient morts et endormis depuis bien longtemps. En tous les cas, en ce qui concerne Moïse, pour Élie, nous savons qu'il a été enlevé directement au ciel. Mais vous voyez, il était très étonnant pour eux d'apercevoir que ces êtres-là qui avaient quitté la terre apparaissaient là, maintenant, à côté du Seigneur. Non pas possible que nous soyons dans un état d'inconscience. Et je voudrais ici apporter au cœur de tous ceux qui parfois, tout en étant chrétiens, ont une certaine crainte dans leur cœur pour le jour de leur départ. Voyez-vous, je me sens un peu libre de vous parler comme cela ce matin, parce que finalement, il n'y en a pas beaucoup ici, parmi nous, qui me dépassent en âge, n'est-ce pas? Il y en a quelques-uns, oui, mais pas beaucoup. Et je peux me sentir libre de parler du grand départ. Vous savez, pendant longtemps, il y a eu cette sorte de crainte dans mon cœur, comme ça peut arriver à n'importe quel être humain. Parce que la mort, finalement, peut être comme un grand point d'interrogation. Et on se dit, ce passage-là, je vais vous dire, le passage, il continue à me faire peur. Mais ce qu'il y a derrière le passage, pour moi, c'est glorieux. Et je peux vous dire que là, il n'y a plus aucune crainte. Je ne sais pas comment va se passer le passage. Il y en a, puisque j'ai eu l'occasion d'en voir tellement, tellement partir ici-bas sur la terre, des êtres chers qui sont partis, et j'en ai vu quelques-uns avec de grandes souffrances, parce que atteints de maladies dans leur corps, et j'ai pu voir comment ils étaient aussi dans ces douleurs-là, bien que l'espérance n'avait pas quitté leur cœur. Et il y en a d'autres, ils se sont endormis paisiblement et sont allés rejoindre le Seigneur dans une joie et une calme extraordinaire. Il y en a même un, c'est le seul cas que j'ai pu voir au moment où j'étais accompagné d'ailleurs de mon frère à ce moment-là. Nous étions en train de prier pour ce vieillard qui venait à peine de recevoir Christ comme son sauveur personnel il y avait 2 ou 3 jours. Et au moment où justement nous étions en train de prier pour lui, il a, à un moment donné, s'est assis sur le lit. Et il a dit, mais il est là, il vient me chercher. Et puis il s'est recouché, c'était fini. Vous voyez, ça c'est extraordinaire. C'est quelque chose qui est absolument merveilleux. Et je voudrais vous dire, non, la mort, nous ne devons pas la craindre. Parce que la mort, c'est un canal peut-être difficile, mais par le moyen duquel nous allons nous jeter dans les bras du Sauveur. Et ça, c'est le partage de tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur Sauveur personnel. Ces gens étaient donc dans cette sorte de crainte, ils se posaient des questions au sujet de leur être cher qui était déjà parti, et il leur dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Voyez-vous, il essaie de consoler leur cœur afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Il y a quand même une différence entre nous qui, chaque jour, louons le Seigneur pour sa bonté, sa fidélité, son amour et l'œuvre qu'il a accomplie en notre faveur, et ceux qui rejettent la grâce du Seigneur. Voyez-vous, il y a quelqu'un qui a mis en relief l'épitaphe qui s'est trouvée sur la tombe de quelqu'un qui n'avait pas d'espérance. Il était écrit, je n'étais pas, j'ai été, je ne suis plus, maintenant je suis indifférent à tout. Vous voyez, c'est triste de lire de telles paroles quand il n'y a pas d'espérance. Eh bien, la mort représente la fin de toute chose. Et c'est comme un trou noir dans lequel il n'y a plus aucune espérance. Mais pour le chrétien, c'est pas pareil. Je rappelle ce que disait Paul. Oui, oui, je préfère quitter ce corps. Et ce n'est pas non plus qu'il était comme un lâche qui finalement évitait le combat pour connaître le repos éternel. Non, pas du tout. D'ailleurs, il dira dans un autre passage, mais pour vous, je préfère rester. Pour vous, je préfère continuer l'exercice de mon ministère. Il avait aussi l'amour des âmes. Mais il prenait conscience que pour lui, le meilleur, ben, c'était d'être avec le Seigneur. J'aimerais vous poser la question, mes frères et sœurs. Est-ce vraiment votre partage? Est-ce vraiment votre partage? Vous savez, nous sommes tous comme des oiseaux sur la branche. D'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre, nous pouvons quitter cette terre. Mais quand il y a cette espérance-là, il n'y a pas de frayeur dans le cœur. Et c'est la raison pour laquelle c'est bon de se rappeler ce que dit l'Écriture. Notre Dieu nous a arraché non seulement la condamnation éternelle et au pouvoir du péché, mais il a mis en nous par son Esprit une espérance vivante. Quand l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous lui appartenons, alors nous ne craignons rien. Et c'est pour ça que Paul ici eh bien, apporte une consolation à ces chrétiens de Thessalonique. Et il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. La question se posait pour eux, qu'allaient devenir ceux qui les avaient précédés? Alors, ici, Paul répond, il dit, nous ne devancerons pas eux. Ils auront aussi ce privilège. Et il dit, nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, prêtez l'attention à ceci, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça veut dire que lorsque le Seigneur va descendre sur les nuées pour chercher ceux qui croient en lui, et c'est ce que nous attendons, eh bien, il sera accompagné de ces âmes-là qui sont déjà dans le ciel, auxquelles sera joint le corps qu'il va ressusciter d'entre les morts. Et ils seront justement dans ce corps glorifié, en même temps que nous, dans le corps, si nous sommes vivants au jour de son retour, sera transformé à l'image du corps glorieux du Seigneur, parce que c'est là notre espérance. Notre corps aujourd'hui est un corps mortel. Un jour viendra où il aura cette transformation. Et comme le Seigneur, après la résurrection, était, nous aussi, nous serons. Vous savez, j'aspire à cela. J'aspire à cela. Aujourd'hui, ce corps, il est plein de choses qui, dans le fond, nous font souffrir. Bon, pas les jeunes, mais ceux qui avancent un petit peu en âge savent combien chaque jour il y a quelque chose de nouveau. Vous savez, c'est comme les voitures Renault. Oh, pardon. Chaque jour, un bruit nouveau. Chaque jour, ici, pour le corps, il y a quelque chose de nouveau qui ne va pas. Et on s'en rend compte que c'est notre lot, notre partage, tant que nous restons dans ce corps. Mais quand il paraîtra, là, nous serons transformés. Et ceux qui sont morts, on ressuscité et nous allons nous retrouver avec le Seigneur sur les nuées. Pourquoi? Il y a une continuation pour les impies ici-bas sur la terre. Il y avait une confusion chez les Thessaloniciens. Quelques-uns faux docteurs avaient cru comme devoir de leur enseigner que peut-être le jour du Seigneur était déjà arrivé parce que ils étaient lancés dans beaucoup de tribulations et à cause de cela, ils pensaient que le jour du Seigneur était arrivé. C'est là où nous devons faire attention. Le jour du Seigneur n'a rien à voir avec le retour du Seigneur pour prendre son Église et les croyants. Le retour du Seigneur pour prendre son Église se fait à partir des nuées. Jésus ne pose pas les pieds sur la terre, c'est nous qui allons le rejoindre dans les nuées pour connaître avec lui un bonheur ineffable. D'abord, ce sera la célébration de ce que la Bible appelle le festin des noces de l'agneau. Et puis, évidemment, il faut quand même que nous passions parce que la Bible appelle le tribunal de Christ. Parce que il y a le grand trône blanc qui seulement est réservé pour les impies et les gens qui rejettent la grâce de Dieu. Mais nous, chrétiens, nous devrons connaître le passage devant le tribunal de Christ. La chose qui peut apaiser notre cœur, c'est de savoir que là, nous serons jugés pour le bien ou le mal que nous aurons fait étant dans ce corps, mais jamais condamné, puisque la Bible déclare « il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Cependant, nous devons être évalués pour l'œuvre qui a été accomplie. Et c'est la raison pour laquelle, dans un autre passage, Paul dit qu'il nous faut faire attention à la manière dont nous travaillons. Il y en a qui utilisent la paille, le bois, mais tout cela est consumé par le feu et il n'y a pas de récompense parce que tout cela est brûlé et il ne reste rien. Mais il est dit, il y en a d'autres qui travaillent avec des matériaux solides, la pierre, l'or, l'argent. Et la Bible dit que là, il y aura une récompense. Alors moi, j'ai entendu un jour un insensé qui m'a dit, « Oh ben moi, la récompense, ça m'est égal. Pourvu que j'ai un strapontin dans le ciel et que je sois sauvé, peu importe que je n'ai pas de récompense. » Quelle stupidité quand même. Est-ce que vous pouvez imaginer simplement cela? Le regard du Seigneur qui se pose sur nous et qui nous rappelle simplement, même dans la gloire, tout ce qu'il a payé pour nous. Et comme le dit un certain cantique, tout cela, je l'ai fait pour toi. Toi, qu'as-tu fait pour moi? Non, ne croyez pas que je suis en train de parler du salut par les œuvres. Mais je suis en train de parler des œuvres parce que nous sommes sauvés. Parce que la Bible dit que la foi authentique, elle doit pouvoir être démontrée par les œuvres. Les actes prouvent la foi que nous avons dans le Seigneur. Mais si nous disons, comme Jacques nous le rappelle dans son épître, que nous avons la foi sans les œuvres, que nous continuons à vivre et à être comme les gens de ce monde. Alors il dit lui-même, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai, ou plutôt, et moi je te montrerai la foi avec les œuvres qui sont la conséquence de la foi. Et nous devons savoir que lorsque nous quitterons cette terre, eh bien, il y aura évidemment, cette joie de la réunion avec le Seigneur, mais il y aura le tribunal de Christ, sans la condamnation. Nous perdrons simplement la récompense, et d'autres auront des récompenses. Mais ensuite, il faut que nous sachions qu'il y a le jour du Seigneur. Et eux étaient inquiétés avec cela. Mais le jour du Seigneur, c'est quoi? C'est le châtiment que Dieu va exercer sur les impies parce qu'ils ont rejeté la grâce, ont rejeté le Seigneur, ont rejeté Dieu et restant dans cette position-là à la fin de toute chose, ils devront comparaître parce qu'il y aura une résurrection pour eux aussi. Mais cette fois, pour comparaître devant Dieu et eux, pour être rejetés définitivement. Il n'y a pas de salut. Pour ceux qui refusent la grâce et qui restent dans cet état-là jusqu'à la fin de leur vie. Et ici, il leur dit, mais non, si des faux docteurs vous ont enseigné qu'à cause des tribulations que vous ressentez, vous êtes en train de connaître le jour du Seigneur, c'est faux. Ce que vous connaissez, les tribulations que vous connaissez, font partie tout simplement de la vie chrétienne. Et il dit, notamment dans son épître à Timothée, tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. Alors, je voudrais ici vous dire, mes frères et sœurs, la grande tribulation, elle n'est pas encore là. La grande tribulation, c'est quand nous serons déjà partis. Nous y échapperons. Pourquoi? Parce que le Seigneur est venu pour nous délivrer de la colère à venir. La colère à venir est pour ceux qui rejettent la grâce de Dieu. Tous les éléments qui se trouvent dans la parole de Dieu, comme l'histoire de Noé, comme l'histoire de Sodome et Gomorre, prouvent que les justes sont mis à l'écart de la colère de Dieu. Du temps de Noé, il y a eu un petit groupe, les huit faisant partie de sa famille. Ils étaient dans l'arche. Et moi, je fais une comparaison avec l'arche de la grâce. Et cela, eh bien, pendant que le déluge avait lieu, ils étaient en sécurité dans Sodome et Gomorre. Et Dieu sait qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de cette mentalité qui caractérisait les habitants de Sodome et de Gomorre. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait, Dieu ? Il y avait quand même Lot qui a été mis à l'abri. Il a été pendant longtemps comme quelqu'un qui tourmentait son âme au milieu de ces gens-là. Mais au dernier moment, il a pu échapper car Dieu lui a quand même fait grâce. Et voyez-vous, ça c'est la preuve que les chrétiens échapperont à la grande tribulation, échapperont à ce jugement terrible qui attend les nations et tous ceux qui restent dans l'incrédulité et rejettent la grâce de Dieu. Et ça, pour moi, c'est une grande source de consolation. Alors, mais il veut quand même rassurer ses cœurs et leur dire non, non, vous n'êtes pas dans le jour du Seigneur, ne vous inquiétez pas. Mais il parle de cette espérance lorsque Jésus va paraître et en même temps, pour nous, c'est un moyen de réfléchir. Voyez, mes frères et sœurs, quand Jésus va venir, et puisqu'il est parlé de la résurrection, de ceux qui avaient cru et qui étaient morts dans la foi en Christ, il faudrait quand même que nous nous rappelions des piliers de cet enseignement qui se trouve dans la parole de Dieu. Car finalement, l'espérance que nous avons, elle repose sur trois points que l'apôtre Paul ici est en train de mettre en relief. La mort de Christ, c'est le premier point. La résurrection de Christ, c'est le deuxième point. Et la révélation de Christ, c'est le troisième et dernier point. Premièrement, la mort de Christ. Elle suscite en nous une espérance. Pourquoi ? Parce que la Bible rend ce témoignage. Si nous croyons que Jésus est mort, quand il est dit, et c'est Paul qui parle comme cela, si nous croyons que Jésus est mort, la petite conjonction « si » ne signifie pas qu'il y a un doute. C'est comme s'il disait « puisque nous croyons, étant donné que nous croyons, compte tenu du fait que nous croyons, eh bien, à partir de là, nous devons savoir que nous aussi, comme Christ est ressuscité, eh bien, nous ressusciterons. » Pourquoi ? Parce que la mort de Christ a un grand impact sur l'humanité. C'est formidable. Ce matin, par exemple, c'est moi, avec toujours beaucoup de joie, de reconnaissance, que je peux chanter ce cantique que nous avons tous ensemble chanté, Rédempteur adorable. Vous savez, se rappeler du prix que le Seigneur a payé afin que nous soyons mis à l'abri de la condamnation éternelle. Parce que la Bible dit que Christ a été fait péché pour que nous, nous soyons justice de Dieu en Jésus-Christ. Donc la mort de Christ doit nous rappeler cela. Tout mon péché a été placé sur Christ. Et c'est la raison pour laquelle le regard du Père s'est détourné du Fils. Ce qui a poussé Jésus à pousser ce cri sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et c'est parce que le regard du Père ne pouvait pas se poser sur le Fils couvert de notre péché, de notre iniquité. La mort du Christ, qui est victime expiatoire, chargée de nos iniquités, est le premier pilier de notre espérance. Je dois me rappeler, il est mort, mais pas en vain. Il est mort en portant mon péché. Mais la Bible continue, deuxième pilier, il est ressuscité. Et Paul dit, il est ressuscité pour notre justification. Pourquoi ? Parce qu'après être mort, enseveli, ressuscité, il monte dans la gloire. Et le Père a accepté l'œuvre parfaite qu'il a accomplie sur la croix. Et il a donné une preuve de son acceptation de l'œuvre parfaite accomplie par son Fils en envoyant son Esprit le jour de la Pentecôte. Justification par sa résurrection. Et dans un autre passage, Paul dit « Christ est ressuscité comme les prémices ». C'est le premier d'entre plusieurs frères. Et nous, ensuite, à ce moment-là précis, nous allons ressusciter aussi. Et le fait que nous croyons à la résurrection du Christ doit également nous pousser à dire, eh bien, comme Christ est ressuscité, moi aussi je ressusciterai. C'est l'espérance que possèdent tous les chrétiens. Et enfin, le dernier pilier, c'est la révélation. Il dit, voilà la révélation d'après la parole du Seigneur. Une révélation que Paul a eue. Il faut bien que nous comprenions que le mystère de l'Église, eh bien, il a été en quelque sorte dévoilé par l'enseignement que l'apôtre Paul a reçu directement du Seigneur. Quand cela n'est pas précisé, peut-être dans ce moment même où l'apôtre Paul a pu connaître ce ravissement, en tous les cas, il dit, d'après la parole du Seigneur, voilà ce qui est clair, voilà ce que je vous enseigne. On ne pouvait pas le découvrir dans l'Écriture au préalable. Mais lui, il a reçu cette révélation et il nous dit, nous n'allons pas devancer ceux qui sont morts, mais ils vont, eux, ressusciter les premiers, mais nous aussi, nous connaîtrons la vie en Dieu. C'est un enseignement qu'il a reçu directement de la part du Seigneur. Ces trois piliers-là doivent donner de l'assurance à nos cœurs. Et si, par, je dirais, une possibilité qu'il y ait quelqu'un au milieu de nous, qui se pose des questions à ce sujet-là, je voudrais simplement dire que cette personne puisse se tourner vers ce passage et puisse faire confiance à la parole de Dieu qui, elle, ne peut pas nous tromper. Il est écrit « Tout passera, mais la parole du Seigneur demeure éternellement ». Et il arrive parfois que nous ayons besoin d'être comme conforté dans cette certitude que nous ne serons pas abandonnés dans la tombe. De toute façon, même quand notre corps est dans la tombe, le corps dort, mais l'âme est en Christ, dans la présence de Christ, et il y aura pour nous cette glorieuse résurrection, et nous serons avec lui pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse.